Alors, nous sommes ici à Épignac, plus précisément au lieu dit La Bigotière. La Bigotière qui accueille une coopérative qui s'appelle la coopérative Le Ruisseau. Et nous sommes avec Julien Guérinet. Bonjour.
Bonjour.
Julien Guérinet, vous êtes animateur nature, vous êtes référent aussi pour tout ce qui concerne les activités de ce lieu, La Bigotière. Vous allez nous présenter justement ce lieu, la coopérative. Et par ailleurs, donc, vous êtes animateur nature et donc vous proposez aussi des activités axées sur la découverte de nos milieux naturels, de la faune, de la flore, de la biodiversité qui peut exister ici même, mais plus largement localement, on va le dire comme ça. Mais juste avant d'aborder cette dimension-là, est-ce que vous pourriez nous présenter tout simplement la coopérative Le Ruisseau, dont vous êtes le référent en termes d'activité ?
Oui, alors la coopérative Le Ruisseau, c'est une coopérative qui est née directement sur le lieu. Alors le lieu, avant que la coopérative naisse, c'est quand même un habitat participatif. Donc c'est des gens qui décident d'habiter ensemble et de fonder quelque chose de collectif pour pouvoir répondre aussi à des enjeux écologiques, sociétaux, de pouvoir mutualiser des choses.
Donc c'est un hameau ?
Oui, c'est un hameau. Il y a actuellement 22 personnes, je crois, qui habitent, quelque chose comme ça. Ça change un petit peu parce qu'on a un foyer d'accueil social pour mamans isolées. On a les 12 membres fondateurs. Et moi, j'habite sur le lieu avec ma compagne et mes deux filles.
D'accord.
Donc ça fait un petit peu de monde. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais la volonté de ce collectif en s'installant, ce n'était pas juste d'habiter ici, mais aussi de créer de l'activité. C'est pour ça qu'avant même les premiers habitats, il y a deux activités qui se lancent. Il y a donc l'association Trois Petits Pas. Donc l'association qui a vocation d'accueillir des mamans isolées en difficulté. Et un fournil qui s'appelle Escalpin. Gilbert, un habitant à 56 ans, passe son CAP boulanger et se lance. Et aujourd'hui, la boulangerie a été reprise par Nolwenn Guillard et par la coopérative Le Ruisseau, puisqu'elle travaille avec nous. Et donc la coopérative, elle naît, on va dire, 2020-2021, avec la première activité qui est les paniers du ruisseau. L'idée ici, c'est qu'on est dans la période Covid et qu'il manque d'espace de commercialisation, on va dire, pour nos producteurs locaux. Au sein de la coopérative, il y a une certaine sensibilité aussi pour promouvoir l'alimentation locale, écologique, biologique même, puisqu'on a le label bio en tant que distributeur aussi. Et donc, la coopérative naît sur cette activité-là. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de producteurs, une gamme de plus de 1200 produits. Et donc, en fait, les gens peuvent commander des produits directement sur Internet. Ensuite, il y a une équipe de bénévoles qui compose des paniers en fonction de la commande des gens. Donc, c'est vraiment une commande sur mesure. Et ensuite, les gens viennent chercher leurs paniers. Aujourd'hui, il y a 8 dépôts sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment le lancement de la coopérative, avec toujours cette idée en tête d'être une coopérative donc de territoire, donc on agit sur le territoire, pour les transitions écologiques et sociales. Donc on a un autre volet vraiment sur le territoire, sur tout ce qui est aspect écologique, biodiversité. On travaille avec nos producteurs et d'autres sur leurs fermes directement, en faisant des diagnostics de biodiversité par exemple, des aménagements aussi en faveur de cette biodiversité. On les accompagne sur la gestion de leurs haies. Alors, il y a tout un gros pôle de la coopérative là-dessus. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler surtout celui du lieu en tant que tel. Donc, le terre-lieu de la Bigotière. Terre-lieu parce qu'on a une vraie connexion avec la terre ici et ses activités. Donc, parmi les multiples activités qu'on a ici, on a une activité d'événementiel, on va dire, dans les périodes estivales. Là, fin du mois d'avril, on va monter notre chapiteau. On le monte tous les ans, on le démonte tous les ans, et donc là, on peut avoir différents types d'activités. Ça peut être du séminaire, pour des formations aussi pour des entreprises qui voudraient venir ici, et des concerts, du théâtre. C'est un lieu très, très convivial. Il y a beaucoup d'activités conviviales, et c'est assez important pour tous les membres de ce collectif-là, pour être ensemble, pour faire ensemble.
Donc, il y a cette dimension événementielle. Et puis, il y a aussi le lieu, la vie du lieu en tant que tel.
Oui, alors la vie, c'est la vie de voisinage, on va dire, déjà, par les gens qui y habitent. Mais après, il y a aussi d'autres activités. Moi, on va dire, ma partie où je vais être plus en référence, ça va être tout ce qui est accueil pédagogique. Donc, aujourd'hui, on a différents types d'accueil. On travaille avec des scolaires. Donc on fait des cycles avec des scolaires chez eux et ensuite ils viennent aussi ici. On travaille avec des centres de loisirs. Là, aux prochaines vacances, on accueille un centre de loisirs à la journée. On va avoir plus de 60 enfants qui vont venir ici. On fait des animations tout public, comme celle de cet après-midi. Donc là, il y a différentes formules, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi promouvoir la biodiversité, rendre accessibles nos connaissances, donc sur différentes thématiques qui vont être plutôt liées à l'environnement, aussi la partie jardin, la partie production aussi un peu plus largement. Et on a aussi des formations. Donc on est organisé de formation depuis l'année dernière et donc on cherche à développer des formations, aussi des formations professionnelles, donc sur plein de thématiques en lien avec notre activité.
Alors, qui dit justement activité pédagogique, mais pour le coup, il faut pouvoir aussi montrer, être en situation et en pratique, c'est-à-dire que ce lieu-là aussi propose un jardin. Enfin, est-ce que vous pourriez nous parler de tout ce que vous avez mis en place, installé, pour pouvoir aussi voilà, mettre en pratique et en situation les savoirs que vous dispensez?
Alors oui, le lieu, il est parfaitement adapté. Déjà parce qu'il est en campagne, parce que sur le lieu, on a des espaces boisés aussi, donc on a différents types de milieux, donc c'est propice justement à ces formateurs par rapport à nos thématiques. Il y a une partie privée, donc qui est l'habitat, qui est bien distincte, qui est vraiment le cœur du hameau avec des jardins privés. Et on a une partie qu'on va dire publique ou semi-publique, où là, on a un jardin pédagogique où nous sommes en ce moment même. Avec donc du coup Nolwenn, la boulangère, qui a aussi cette casquette de jardinière qui s'occupe de ce jardin-là. Dans ce jardin, on a différents types d'aménagements, notamment une mare, donc qui va être le support d'animation de cet après-midi. On a une bergerie avec des moutons, on a des poules, on a des chèvres aussi. Et un peu plus loin, on a une partie un peu plus agricole, où là, on développe une pépinière professionnelle. Pour vendre des plants d'arbres bocagers. Donc là, on reboucle avec notre impact aussi sur le territoire pour aider à la gestion des haies, à la replantation des haies. Donc nous, on est aussi producteurs directement de plants. Et donc, on a aussi donc des serres qui peuvent accueillir différentes animations et formations.
Donc c'est très large. Et plus spécifiquement, là pour le coup, il y a une des activités que vous développez qui est aussi la découverte. Vous êtes animateur nature et la découverte notamment de la biodiversité de ce lieu même, mais aussi la biodiversité locale de la faune et de la flore où vous proposez des stages, des formations.
Alors oui, c'est vrai que le support principal, ça reste quand même le lieu. Par exemple, là, pour la deuxième semaine des vacances, moi, je fais un stage nature, un club nature pour les enfants, en fait, où le matin, j'accueille des enfants de 3 à 6 ans, et l'après-midi, de 7 jusqu'à 17 ans. Et donc là, ils passent une semaine à venir tous les jours. Et donc là, on explore un petit peu tout ce qui est en lien avec la nature. Après, pour le grand public, on fait des ateliers comme celui de cet après-midi qui s'appelle des instants nature. Donc là, l'idée, c'est que ce soit le plus accessible possible. Donc c'est une activité qui est à prix libre, où les gens viennent sur inscription et moi, ensuite, j'anime un temps avec une thématique donnée. Cet après-midi, c'est les amphibiens, pour explorer, apprendre, découvrir aussi des choses qu'on n'a pas forcément accès aujourd'hui dans notre monde où on est plutôt très connecté, très, très urbain. Et voilà.
Donc ce ne sont que les amphibiens ou dans ces stages?
Non, non, non. Alors, sur les instants nature, on a différentes thématiques cette année. Il y a donc celui d'aujourd'hui qui est sur les amphibiens. J'en fais un aussi en mai sur les reptiles. Et suivant les années, on en fait plus ou moins. On peut en faire sur les insectes, sur les plantes. Moi, je fais aussi des balades plantes sauvages comestibles. Donc là, il va y en avoir une en mai, une en juin. Donc en fait, on explore toutes les thématiques qui sont liées à notre champ de compétences et globalement l'environnement au sens large. Et après, en fonction aussi des rencontres, des demandes, on s'adapte et on essaye de créer des choses qui vont parler aux gens.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est une grenouille verte aussi. Hein. Les deux, c'est des grenouilles vertes.
Léon, tu
sais. Que je vais pouvoir la prendre. Alors,
c'est bon.
Vous voyez, vos yeux commencent à se faire à la mare et vous commencez à voir les fritons. Mmh.
Donc ouais, il y a une belle activité de criton là, ils sont en pleine période de reproduction.
Ah super.
Ouais. Ouais ouais. Ah ils vont arriver.
Il y en a plein dedans. Vraiment plein, c'est quoi?
Non mais c'est sorti. Ah oui.
Alors là je l'ai mis à 9h ce matin. Et là il y en a quoi, à 25 je pense.
Et ouais, et vu que je savais pas qu'il allait en avant, j'en avais beaucoup fait. C'est pour ça qu'on
fait le truc comme ça. Oui, d'accord. Non, mais une fois,
il y en a un qui s'en fait pas.
Mais beaucoup.
Oh, il y a leur copain déjà.
Ouais, j'en avais déjà au cas où je voulais être sûr d'en avoir. À vous montrer quand même. On peut peut-être mettre sur la table. On va pas les laisser trop longtemps parce qu'il fait un peu chaud. Et ils sont plutôt dans l'eau froide. Faut faire attention aux livres. Donc là, il y en a. Et puis ceux des autres. Et ça, c'est relâché d'ailleurs. C'est là qu'on a tout ce matin. L'eau est encore fraîche. Mais... Donc là, déjà, si vous les regardez bien, ils sont pas tous pareils. Ah oui. Alors ça va peut-être vous aider à trouver le nom de petit.
Il y en a des plus
marrons,
mais il y en a
plus
des
plus marrons. Ah, c'est
pas
tout à fait ça.
La tête. La tête, elle est...
Non, la tête est
fine.
Ou la queue, elle est plus petite. La queue. Ah non, les points.
Alors elles sont pas juste elles sont pas juste grosses, c'est pas.
Elles sont pas mêlées.
Il y en a un tout seul, il y a
chips chips.
Il y en a un où il y a rien, il y en a
là-bas, où il y a des plantes qui se sont mis là-bas.
Il nage hyper vite les tritons. Au moins il nage hyper vite les
tritons. Tu voulais. Donc ça, c'est un mâle que vous avez là. En fait, le triton palmé. Là, on voit vraiment bien les palmes. Chez le mâle en fait. La femelle, elle a les palmes beaucoup beaucoup moins prononcées. Et lui généralement il est un petit peu plus foncé. Le mâle il a aussi la pointe de la queue, il a un petit filament. Donc quand on les regarde d'au-dessus comme ça, on voit quelque chose d'assez noir, d'assez foncé. En fait, on se rend compte qu'ils ont pas mal de couleurs. On peut voir des reflets bleus chez le mâle, sur la queue par moment. Il y a du orange, là on voit bien le filament.
Le mâle, il est plus palmé que la femelle.
Exactement. Il est légèrement plus petit et on voit bien les palmes. Là, on a un mâle, là.
Oh, il est rigolo.
Donc là, on voit bien. Donc forcément, c'est un peu foncé, mais dès qu'on le met dans l'eau, on peut voir des couleurs. Donc, on voit bien les pattes palmées. On voit bien le filament au bout de la queue.
Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Et en dessous, désolé mon petit. Oh là là, t'es vigoureux toi. En dessous, il y a un petit appendice à la base de la queue.
Ah oui, on l'a vu.
Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on différencie le mâle de la femelle chez les tritons palmés.
Il est beaucoup palmé là. Il y a un mâle là.
Maintenant, il va falloir qu'on essaye de compter le nombre de mâles et de femelles.
Là, il y a un mâle.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors, évidemment pas tout en détail, mais quelle est la biodiversité locale à Épignac, la plaine de Dol de Bretagne, de plaine fougère, il y a Cugin qui est pas très loin. Est-ce que vous pourriez nous parler voilà, de la spécificité, notamment en faune et en flore?
Ah bah c'est assez complexe en fait, parce que y a énormément d'espèces sur le territoire, que ce soit faune, flore. Et c'est difficile de catégoriser, on va dire, qu'on est quand même assez représentatif de ce qu'on peut trouver dans la région Bretagne. Il faudrait rentrer dans quelque chose de plus spécifique, en fait, en fonction de ce qu'on cherche à identifier. On a fait, avec les communes de Dole, d'Épignac et de Baguet-Picant, il y a 2 ans, on a animé un atlas de biodiversité où on a fait différents inventaires, que ce soit sur les prairies, que ce soit sur la faune. Et voilà, ça donne des résultats, mais à traduire comme ça,
en quelques mots,
ça va être un petit peu complexe et pas forcément accessible.
Ou alors, parlons de la situation géographique de ce lieu, la Bigotière. Ça s'appelle la coopérative Le Ruisseau. Avec quoi est connecté ce ruisseau et, voilà.
Alors là, on est dans le bassin versant du Guilloux. Donc, c'est-à-dire que les ruisseaux, rivières vont rejoindre ce fleuve qui va jeter dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc la particularité ici, c'est que nous, on est un peu reculé, on est quand même dans un espace rural, on est en campagne, mais on est quand même très proche de la baie du Mont-Saint-Michel et de sa richesse. Donc voilà, on est entre terre et mer, mais plus côté terre, donc c'est assez intéressant aussi. Mais c'est vrai que sur le territoire, quand on pense biodiversité, on pense tout de suite à la baie, notamment parce que c'est un site de halte migratoire pour les oiseaux qui est assez énorme. Et tous les ans, il y a beaucoup d'ornithologues qui viennent en la baie du Mont juste pour observer les oiseaux. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là aussi sur le territoire. Et après, on a beaucoup de faune et de flore communes. Et j'insiste sur le fait que ce soit commun, parce que souvent, c'est pour les naturalistes un peu experts, on s'y intéresse de moins en moins avec le temps. On cherche toujours l'espèce rare, l'espèce qui a disparu, qui revient. Mais on a une vraie richesse aussi en espèces communes, là, autour de nous déjà. Et elle est intéressante à observer, à comprendre, et elle est spécifique aussi parce que elle est ici, elle est chez elle, quoi.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer, justement, vous parliez des modes de vie qui sont extrêmement connectés aujourd'hui, urbains aussi, et qui peuvent avoir pour effet justement une perte de savoir en matière de biodiversité, justement, nos modes de vie étant voilà, plus urbains, on voit moins au quotidien d'espèces, d'où l'importance aussi d'apprendre et de réapprendre. Voilà.
Ouais, bah c'est une question qui est assez politique, finalement. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement en tant que tel. Alors même si, bien sûr, au collège, on a la SVT, la science de la vie et de la terre, mais c'est vrai que ce n'est pas un enseignement en tant que tel d'apprendre le nom des végétaux ou des animaux. Parce que, aussi, il n'y a pas forcément une compréhension de l'intérêt que ça peut avoir. Parce qu'en fait, on est dans un écosystème où tout a une place et tout a un rôle. Et si nous, les êtres humains, aujourd'hui, on est là, c'est parce qu'il y a des services qui sont rendus par la nature, des services écosystémiques qui nous permettent de vivre de nos besoins primaires qui sont le fait de respirer. Donc les végétaux qui ont ce rôle-là de aussi pouvoir nous contribuer à fournir de l'oxygène, mais aussi tout simplement l'eau qui est... un composant essentiel de notre organisme et qui est une ressource sur cette planète et qui est en partie disponible parce qu'on a aussi une biodiversité qui permet un paysage aussi qui permet de capter l'eau et de la maintenir. Donc je pense que ces rôles-là, ils tendent à être de plus en plus clarifiés, mais c'est difficile, c'est assez spécifique et c'est pas forcément suffisamment mis en avant. Surtout, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de peur autour de ça. Autour de la nature, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai des enfants, donc je m'amuse à les rassurer à chaque fois qu'il y a un contact avec cette nature. Mais c'est vrai que quand je côtoie d'autres enfants, par exemple, qui vivent en milieu urbain, une mouche, ça peut faire peur, une abeille peut faire peur, parce qu'on a associé des fois des choses qui sont erronées à certaines espèces. Et vu qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas ou mal, eh bien, on a vite peur de végétaux, d'animaux, alors qu'en fait, il suffirait d'apprendre à les connaître davantage pour comprendre qu'ils ont un rôle, qu'ils sont bénéfiques et qu'ils ne sont pas dangereux du tout.
Combien de classes, voilà, en termes de formation et de stage, vous pouvez accueillir sur ce lieu sur une année, par exemple ?
Alors, c'est un champ qu'on développe progressivement, le contact avec les scolaires. Donc aujourd'hui, on n'en a pas énormément. Moi, je fais pas mal d'interventions aussi chez les... Hier encore, j'étais avec une classe de terminale. Et la semaine prochaine, je suis avec des petites sections de maternelle. Donc voilà, pour la largeur du public. Mais aujourd'hui, on pourrait accueillir beaucoup. Mais c'est vrai qu'on c'est pas nombreux aujourd'hui, on va être à une dizaine sur l'année. On aimerait bien développer plus, mais il faut aussi que les écoles aient les moyens de venir. Et c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai frein. Et des centres de loisirs aussi, l'idée, c'est d'en accueillir plus. Mais là, pour l'instant, on est encore à des chiffres qui sont relativement faibles. Mais on tend à se développer là-dessus. La coopérative est assez jeune, je disais... 2021, c'était vraiment les paniers du ruisseau, et là ça fait 2-3 ans qu'on développe ça. Et voilà, il y a déjà la mise en place du lieu, le fait de se faire connaître. Donc ça vient petit à petit.
Il y a vraiment une approche, pour le coup, là, écosystémique dans ce que fait la coopérative Le Ruisseau, c'est-à-dire aussi bien connaître la biodiversité locale que d'en développer des activités aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement cette dimension-là, systémique ?
Ben, le lieu de la Bigotière est un écosystème en tant que tel. Et il faut considérer tous les paramètres qui sont dedans, à savoir les humains, les non-humains. Globalement, c'est principalement ça, et leurs usages respectifs, et leurs besoins respectifs. On est sur un lieu d'habitat, oui, on est en campagne, oui, c'est de l'habitat participatif, mais ça ne veut pas dire qu'on vit dans une grotte, c'est-à-dire qu'on a de l'eau, on a l'électricité, on a un certain besoin en termes de confort. Et comment on va concilier ça avec notre environnement ? Les questions, elles sont surtout là. Quels sont les besoins ? Et comment penser les besoins des humains et des non-humains en synergie plutôt qu'en opposition ? Par exemple, on a un aménagement à faire, quel qu'il soit, rénover une grange, construire un hangar. Comment cette réponse à un besoin qui est humain, il peut aussi répondre à un besoin en termes de biodiversité. Aujourd'hui, depuis que l'homme existe, on va dire que certaines espèces se sont inféodées à lui parce qu'elles ont évolué à son contact. Et des espèces qui, par exemple, on va prendre l'exemple des oiseaux qui étaient cavernicoles, qui pouvaient nicher dans des falaises, se sont complètement inféodés aux bâtisses humaines et ont besoin aujourd'hui de nicher dans les bâtiments. Parce qu'avec l'évolution, elle s'est adaptée à ça. Donc comment on peut penser le bâtiment pour laisser place, tout simplement, aussi à certaines espèces qui ont besoin de ce type de structure. Donc on pense à des petits passereaux, comme les moineaux, par exemple, qui nichent. C'est l'exemple qu'on prend parce qu'on le voit aussi en ville. Mais aussi d'autres espèces, comme les hirondelles, par exemple, qui peuvent nicher dans les bâtiments, les vieux bâtiments. Comment, quand on rénove le bâtiment, on laisse un accès aux hirondelles ? Comment on y pense ? Voilà, c'est plein de petites choses. Quand on aménage le jardin, on se dit, tiens, à qui ça peut servir ? Quelle forme va prendre ce muret ? Parce qu'en fait, il va être un lieu ressource pour les lézards. Comment aussi ça va pouvoir être un gîte à hérissons ? Donc voilà, on a les usages, les besoins humains et non humains, et comment on les pense en synergie, et pas en opposition, et pas en conflit.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels seront les futurs, pour les auditeurs qui seraient intéressés, auditrices, quels seront les futurs stages, formations que vous proposerez ?
Alors, il y a un programme papier qui va sortir tout bientôt, j'espère courant avril. Sinon, pour avoir toutes les informations, nous on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et on est sur Instagram pour l'instant. C'est deux réseaux qu'on utilise le plus. Et après, on a un site internet aussi, qui c'est très facile à retrouver, Le Ruisseau Coopérative. Vous trouverez les réseaux et le site internet, où on a un agenda où il y a tout en ligne. J'ai pas tout en tête là comme ça, mais je sais que là, en avril, il y a un stage nature, donc qui est complet pour les petits, mais il y a encore de la place pour les plus grands. Et après, souvent, aux vacances, il y a des ateliers. Donc aussi des ateliers, on n'en a pas parlé, mais il y a l'atelier boulangerie aussi, puisqu'on on a du pain. Des ateliers nature, grand public, spécifiques aussi. Et ouais, toutes les infos sont à suivre sur nos réseaux, c'est le plus simple.
Très bien. Julien Guérinet, merci à vous. Rappel, vous êtes animateur nature et référent des activités qui ont lieu sur ce lieu de la Bigotière et de la coopérative Le Ruisseau à Épignac. Merci à vous.
Eh bien, merci.
fréquentais la beauté tout le mois de juillet. Pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. J'ai fréquenté la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je n'aurai l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboires et manger pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
Su a la aduana, perdón, yo tengo souvenir así.